cœur.
Non, nous sommes presque en train de clôturer le cycle de l'été. Et le Seigneur nous a poussés à rentrer dans. Parce que le Saint-Esprit a enseigné à travers tous ceux qu'il avait pris jusqu'à l'union transformante. Quand on parle d'union transformante, quand vous avez l'expression l'union transformante, ça veut dire la septième demeure. C'est le mariage spirituel. Mais c'est vrai qu'on dit union transformante pour toutes les autres demeures, parce que dès qu'on est rentré dans une demeure, automatiquement, on respire l'odeur de toutes les autres et la transformation commence. Mais en réalité, la septième demeure, le mariage spirituel, c'est ça qu'on appelle l'union transformante. Pourquoi ? Parce que c'est la substance même de l'âme qui est transformée. Mais avant de rentrer dans la septième demeure, il faut bien sûr que la pâte soit préparée. Avant de faire cuire le gâteau, il faut que la pâte soit préparée. C'est les six demeures qui précèdent. Il faut faire oraison. Il faut faire oraison, ça veut dire qu'il faut s'arrêter, il faut prier profondément, silencieusement, pour Jésus seul. Tous les jours. C'est ça la grande leçon. Il ne s'agit pas d'aller pavaner sur les places, passer à la télé, ou sur Internet, ou je sais pas quoi. Non, non, non. Notre Internet, nous, la télé, pour nous, c'est le cœur de Jésus. On est caché. On est caché dans le cœur de Jésus. Et avec Jésus, on est transformé. Et cette transformation, du côté de Dieu, est toujours silencieuse. De notre côté, elle va impliquer, bien sûr, qu'on puisse livrer, qu'on puisse donner, qu'on puisse ouvrir les portes, qu'on puisse se donner tout entier, s'abandonner. Et c'est pour ça que la manière de s'abandonner, la manière de se donner, la manière de se livrer, la manière de s'ouvrir, la manière de pénétrer dans le feu de la présence vivante de Dieu, n'est pas la même quand on est au commencement, et puis quand on est des commençants, vous voyez, et puis quand on est des progressants, puis après quand on est des illuminés. C'est pas des... Est-ce que c'est vrai? La troisième étape, c'est l'illumination. C'est une lumière. On peut dire que c'est l'esprit qui va dominer pratiquement tout. Dans l'illumination, dans la voie illuminative. Et puis, de manière à nous rassembler. Et une fois qu'on est rassemblé, quatrième demeure, ce rassemblement va jusqu'à la cinquième. C'est la voie unitive. De l'illumination, on va à l'un. Nous sommes dans l'un. Nous sommes dans l'unité. Et c'est un silencieux nous absorbe complètement. C'est très beau, la cinquième demeure. C'est une demeure qui nous... C'est une demeure de dépouillement. C'est une demeure, on l'avait vu la dernière fois, comment la cinquième demeure est une demeure qui nous purifie du temps. C'est une purification de la mémoire. Alors le futur, l'angoisse, le passé, la culpabilité, la honte. Tout ça se bouillonne, bouillonne, bouillonne. On est désemparé, on perd un petit peu ses moyens, c'est vrai. Et quelque part, notre liberté a du mal à s'actuer. Pourquoi ? Parce que c'est plus nous qui prenons le contrôle de la situation. C'est vraiment Dieu qui prend le contrôle de notre vie intérieure et extérieure. Et la cinquième demeure est réservée à ceux qui ne sont pas présomptueux. Ceux qui veulent garder une belle image de marque ne peuvent pas passer par la cinquième demeure. C'est impossible. Impossible. Ils veulent préserver. Vous voyez, ils veulent qu'il y ait une continuité dans leur vie chrétienne et ils veulent que, être fidèles à leurs idées. Si on veut être fidèle à ses idées, même si elles sont très bonnes, c'est même pas la peine. C'est pas la peine. Il faudra se réserver quelques siècles au purgatoire. Et non, c'est vrai, nos idées ne sont pas celles de Dieu. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Ma liberté n'est pas votre liberté. Mon amour n'est pas votre amour, même cet amour surnaturel, tout brûlant pour Jésus, tout théologal, sous le souffle des dons du Saint-Esprit, l'amour de Dieu, qui s'adapte finalement à notre cœur, l'amour de Dieu est beaucoup plus que ça. Alors il faut passer par ce côté qui nous désarme un peu, de l'oraison des cinquièmes demeures, que nous avons vu la dernière fois. Savoir s'enfoncer et rester fidèle. Pour rester fidèle. Mais là où la fidélité est la plus exigeante, c'est évidemment dans la sixième demeure. Si vous voulez repérer, soit pour vous, soit pour la mère abbesse du Mont Carmel, ou soit pour votre père spirituel, n'est-ce pas, s'il a eu des touches de la sixième demeure, c'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué. Vous voyez pourquoi? Parce que dans la demeure, je ne parle pas de la demeure des commençants, mais de la demeure des progressants et de la voie pacifique, de la voie du recueillement, la voie illuminative, eh bien, on est rentré dans la purification de la sensibilité. C'est-à-dire qu'on a des épreuves qui font qu'on pleure, qui font que. Vous voyez, ça peut être qui font que quelquefois aussi on a des irruptions de l'irascible. Vous voyez, il y a des trucs qu'on n'arrive pas à accepter de la part de ce qui se passe dans le monde, de ce qui se passe dans l'église, de ce qui se passe dans notre prochain, de ce qui se passe dans le curé, de ce qui se passe dans le... C'est révolte incroyable, c'est... On est en colère, quoi. Il y a des révoltes. Ça, c'est les commencements, c'est normal. La purification de la sensibilité, quelque chose de pas très agréable, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est pour les commençants. Vous voyez ? Ça veut dire qu'on a encore beaucoup d'amour pour le péché, encore. C'est le signe, si vous voulez, qu'on n'a pas passé encore par la purification de notre liberté profonde, notre mémoire, et on est encore très attaché, encore, à certaines... péché, quoi. On est détaché du péché grave, du péché mortel. On ne veut plus tuer, on ne veut plus avorter, on ne veut plus médire, calomnier, etc. D'accord, ça oui. Ça, le péché, la matière grave, ça on n'en veut plus, ça c'est sûr. Hein. On a pris au sérieux notre union avec Jésus, avec Dieu, et puis avec les conseils évangéliques, la virginité, la pauvreté, et puis la charité, quoi, l'obéissance. Mais on a un petit problème avec l'obéissance. Pourquoi ? Parce que notre cœur n'est pas vraiment purifié dans sa liberté profonde. Vous voyez, c'est pour ça qu'on fait partie des commençants. Mais ça ne fait rien, il faut continuer. Parce qu'au fur et à mesure qu'on fait oraison, le Seigneur vit du dedans comme une merveilleuse patience de Dieu, absorbe petit à petit, absorbe, anéantit les racines de nos tendances au concupiscible et de nos tendances à l'irascible. C'est pour ça que c'est très très beau de faire oraison dans les quatrièmes demeures, parce que dans cette pacifique union avec Dieu, on a ouvert son cœur, on a laissé Jésus pénétrer dans notre cœur, il peut prier avec nous, du dedans de nous, et il y a une union qui se fait avec lui, cette voix. Cette lumière profonde invisible nous apaise. Et dans cet apaisement de la quatrième demeure, eh bien, qu'est-ce que vous voulez ? Les racines de notre sensibilité sont absorbées. Et dans la cinquième demeure que nous avons vue, alors oui, la lumière commence. Donc vraiment, à un moment donné, et un petit peu comme on le voit dans le prophète Élie, dans sa grotte, il y a un passage de Dieu qui se fait. À un moment donné, ça y est. Il y a un passage de Dieu qui se fait. Et ce recueillement, à ce moment-là, le recueillement qui est celui des quatrièmes demeures, où la quatrième demeure, on a encore quelquefois des irruptions, on a encore quelquefois, on assiste à la messe avec des pensées mauvaises, des pensées de colère, tout ça, ou de haine contre je sais pas qui, ou contre je sais pas quoi, contre quelque chose qu'on estime être inacceptable. Vous voyez. Faites attention. Ne pensez jamais que quelque chose est inacceptable. Si vous êtes dans les quatrièmes demeures, si vous êtes commençant, vous pouvez, parce qu'il faut lutter contre le péché mortel. La foi déracine en nous l'amour du péché mortel, ça c'est sûr. Mais si on est dans l'horizon de quiétude, plus rien pour nous ne doit être considéré comme inacceptable. Vous voyez ? Vous avez compris pourquoi ? Puisque on l'avait vu les fois précédentes. Il faut qu'on comprenne que c'est l'union avec la volonté de Dieu qui compte. Donc on accepte tout. Et notre cœur n'est absolument pas lié à une acceptation de quelque chose d'autre que la volonté de Dieu. Donc accepter quelque chose d'inacceptable, ça veut dire être tourné vers des volontés qui ne sont pas celles de Dieu. Et on devient ce qu'on contemple. Donc si vous dites « je trouve ça inacceptable », c'est que vous allez regarder en louchant de l'autre côté de Dieu. Vous louchez. C'est comme Cain, il louchait, tu te rappelles. Il louchait. C'est parce qu'il louchait, il ne regardait pas Dieu. Et du coup, il a tué sa vie spirituelle. Si on sent, ça ne veut pas dire qu'il faut que les choses en question, les scandales en question, sont des choses acceptables. Attention, je n'ai pas dit ça. J'ai dit si je suis très assez pris comme ça, en disant je trouve ça inacceptable, et bien ça, vous voyez, ça c'est très très mauvais signe. Ça veut dire que vraiment il faut une conversion du cœur, il faut se tourner vers la volonté de Dieu d'une manière beaucoup plus habituelle, plonger à fond. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Vous voyez, donc dans la cinquième demeure, il y a des purifications qu'on avait plus ou moins décrites le samedi dernier. C'est des purifications de la mémoire, c'est des purifications, c'est notre passé, vous voyez, qui est absorbé. Il y a quelque chose de notre passé qui est repris en main et Dieu fait à partir de quelque chose qui est imparfait, quelque chose de parfait. Notre vie du passé est évidemment quelque chose d'imparfaite, mais Dieu, de l'imperfection, en fait une puissance. Et cette puissance, il l'actue vers la perfection. Il y met son acte, l'action de Dieu. Vous voyez, l'acte de Dieu prend tout ce qui était en puissance dans notre vie passée, embryonnaire, d'enfance, d'adolescence, de jeunesse, tout ça, et même dans notre vie chrétienne, tout à fait imparfait, il le prend. C'est beau ce qui se passe dans l'horizon des cinquièmes demeures, c'est vrai. Et il le relie non pas à notre futur, mais il le relie dans l'instant présent à notre vocation. Et c'est sa vocation qui complète. Il y a quelque chose qui, dans les racines de notre mémoire, est prise de l'intérieur par Dieu, absorbée. Un peu imbibée, si vous préférez. Et à un moment donné, il a fallu pour ça que Dieu passe par toute notre vie. Et ça s'est passé dans un moment, vous voyez, je ne sais pas, vous le repérez assez bien. L'autre jour, il y a quelqu'un qui me dit, voilà, c'est bizarre, je faisais oraison, c'est un jeune homme, là, il me dit je fais oraison, et voilà, il va avoir une trentaine d'années, il se faisait oraison, et puis, c'est pas ce qui s'est passé. Bah, ça a duré facilement trois quarts d'heure, parce que j'ai regardé ma montre quand j'ai réalisé. Pendant trois quarts d'heure, j'allais dire plus rien. Enfin, plus rien. Si, je pouvais entendre le bruit de celui qui était à côté de moi, je pouvais entendre éventuellement un oiseau, des choses comme ça, mais dans mon intérieur, plus rien. Plus rien. Il y avait. J'ai pas vu spécialement le bon Dieu, j'ai pas eu d'apparition intérieure, mais comme si tout en moi avait été saisi par la présence silencieuse, vivante de Dieu. Et en fait, quand Dieu a fait ça, il a pris, en fait, il prend le passé, il prend la mémoire, il prend l'imaginaire, il prend le sens commun, il prend la cogitative. Vous voyez, il ne prend pas les sens externes, ça c'est vrai. Il ne prend pas les sens externes. Et il passe. Et c'est vraiment Dieu qui est là, parce que on est à la, de l'intérieur dans un autre monde, tout en étant de l'extérieur dans le même monde. Et quand on se dit, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Et combien de temps ça a duré? Vous voyez, il y a une impression de compression, de compression du temps, ou pas une compression, mais c'était plus vraiment du temps. Plus vraiment du temps. Une seule chose est sûre, c'est que Dieu est passé, et ça, j'en suis absolument certain. Il peut s'être produit, d'ailleurs, à cette occasion-là, de ce passage de Dieu dans la cinquième demeure, une très très forte impression surnaturelle que j'ai éprouvée. Mais je ne saurais pas l'expliquer. Je serais bien incapable de l'expliquer. Vous voyez ? Et en tout cas, la chose est sûre, c'est que Dieu est passé. Et je suis passé, j'étais plongé en Dieu. Personne ne peut m'en faire douter. Strictement, jamais personne ne pourra m'en faire douter. Et jusqu'à ma mort, je m'en souviendrai. Ça, c'est le signe, vous voyez, du passage, enfin, de la pointe de l'union parfaite, qui fait que Dieu s'est uni à ce moment-là, parfaitement à moi, et moi j'ai été uni dans une union parfaite des cinquièmes demeures. C'est ça, la grâce, cinquième demeure, la grâce. La grâce, c'est ça, comme vous savez. Hein. Donc, la grâce chrétienne, c'est ça. C'est cette union parfaite. Vous savez, ce que fait la grâce chrétienne, eh bien, elle unit toute la divinité de Dieu avec toute l'humanité de Jésus dans une union parfaite, l'union hypostatique. Et la grâce capitale, lorsqu'on y est plongé dedans, lorsqu'on est plongé dans Jésus, Jésus est plongé en nous, nous vivons de la cinquième demeure. Mais ceci étant, vous sentez bien que c'est tout ce que j'ai essayé de vivre pendant les quatre premières demeures, à force de méditer, à force d'ouvrir mon cœur, à force de contempler les mystères, à force de désirer cette union, de toucher cette union hypostatique. Mais c'est pas moi qui ai fait, atteint à la force du poignet cet état. C'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui me sait. Et en même temps, je vous dis, ça passe par des périodes. Des périodes qui sont un peu humiliantes, c'est vrai, qui sont assez humiliantes même. Pourquoi ? Parce qu'on perd ses moyens, parce que on n'a plus d'habileté, parce que les gens ils vous regardent de travers, parce que du coup on ne peut plus vous faire confiance, parce que c'est vrai, voilà, on te confie un trésor et puis tu dois le rendre le lendemain, et puis le lendemain tu pars avec le trésor, quoi. Mais tu as complètement oublié 6 mois après. Je sais pas, tout le temps des bêtises comme ça, des gaffes, des trucs. Voilà. Et à un moment donné, on passe au sixième. La sixième demeure, donc la sixième demeure, c'est le sixième jour, c'est beau. Et c'est la première fois dans la sixième demeure qu'il va y avoir une oraison sponsale. La sponsalité divine va pénétrer en vous. Et c'est quelque chose de magnifique. Bien sûr, je vous le répète, enfin, je crois que c'est bien que nous le disions bien ensemble, entre nous, c'est que c'est pas parce que nous prions depuis un an ou deux que ça y est, on est arrivé au sixième demeure. Hein. En vérité, je ne crois pas. Hein. Je crois pas. Bon, je crois qu'on peut comprendre. Oui, ça oui. On peut comprendre. On peut comprendre profondément ce que c'est que ces sixièmes demeures. Sinon, ce serait pas la peine d'en parler. Ce serait pas la peine de le. Ensemble, ce serait pas la peine que le Seigneur nous donne sa doctrine. Et c'est très très bien de le comprendre. C'est très très bien parce que ça fera gagner beaucoup de temps. À celui qui, dans l'oraison, sera saisi par Dieu dans la sixième demeure. Peut-être dirais-je qu'on peut même, chez les commençants, avoir quelque chose qui ressemble un peu à ce qui se passe dans la sixième demeure. Parce que le Seigneur le permet quelquefois, surtout si on fait oraison avec l'Immaculée. Surtout si c'est l'Immaculée qui, au-dedans de moi, m'envahit pour faire oraison avec moi. Là, je peux très bien, effectivement, avoir, à certains moments, par un miracle du Seigneur, par une miséricorde très grande, parce qu'il sait que ça m'arrachera plus vite l'attachement à moi-même, l'attachement au péché, ou à mes idées, etc. Donc, il va le permettre qu'il y ait des touches de ce genre. En quoi consiste la sixième demeure? Vous voyez, le sixième jour, Dieu endormit Adam, et puis l'ouvrit le côté, et puis sortit une créature parfaite de complémentarité. Et quand il se réveille de sa torpeur, son ravissement, il dit... Tu vois là l'os de mes os, la chair de ma chair. Mais là, vous voyez, ce n'est pas Ève qui sort de nous et qu'on découvre lors d'un ravissement. C'est Dieu lui-même, en personne et de l'intérieur. C'est dans cette demeure. Dans cette sixième demeure qu'il y a, ça y est, l'apparition de notre véritable humanité. Adam, tant qu'il est resté seul, et tant que son unité avec sponsale d'amour n'était pas incarnée, réelle, vivante, absolue, absolument vraie, je veux dire, non seulement surnaturellement parlant, mais aussi divinement parlant, sa solitude le gardait. Il n'était pas bon que l'homme soit seul. Cette solitude avait quelque chose qui n'était pas encore très bon. Et il fallait que le Seigneur, j'allais dire, surgisse dans un amour de complémentarité. Et c'est l'objet des sixièmes demeures. On appelle ça les fiançailles. Les fiançailles. La septième, c'est le mariage spirituel. Et quand Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse d'Avila, expliquent, ils disent que si dans la cinquième demeure, dans du passage de Dieu, dans la quatrième demeure, vous vous rappelez de l'image qui avait été donnée, c'est un aimant qui rassemble toute la puissance de vie sur Dieu. Oh, on est entièrement absorbé en Dieu, dans la présence de Dieu. Mais là, dans la sixième demeure, à un moment donné, on va être complètement, d'un seul coup, très étonnamment d'ailleurs, ça va nous surprendre, emporté beaucoup plus que dans la cinquième demeure, parce que même les sens externes, même notre corps lui-même, toutes les puissances végétatives aussi, et au fond les cellules aussi, hein, la mémoire a été purifiée. Donc la liberté dans l'ordre du don a été purifiée, enfin a commencé à être purifiée, mais jamais totalement purifiée. Et toutes les sens externes, le corps, aussi être emporté par Dieu en lui. Et donc, il va y avoir ce qu'on appelle des extases, des ravissements et des vols de l'esprit. Attention, il ne faut pas confondre les extases que on trouve quelquefois. Qu'on trouve quelquefois dans les troisième et quatrième demeures, en raison précisément de phénomènes charismatiques pour nous faire aller plus vite comme une sucette, n'est-ce pas? Pour nous détacher. Parce que là, ici, on se trouve dans un état de vie chrétienne où le Seigneur a vaincu en nous la paresse, les moindres péchés, le moindre attachement au péché. Hein? Alors, on ne dit pas qu'on ne peut plus pécher. On peut pécher, bien sûr, on peut encore pécher. Mais il y a vraiment ce souci permanent d'être toujours dans l'amour de Dieu. Il n'y a plus de péché, si je puis dire. Mais on peut très bien sortir de cet état de grâce, n'est-ce pas, pour dire je vais faire, je vais prendre une demi-heure de récréation. Un jour on raconte ça dans une tradition que Saint Jean, le bon Jean l'évangéliste, quand il était vieux, il était là, il se reposait un peu, et il y avait un petit oiseau qui était là, et le petit oiseau, il s'approchait de ses pieds. Et alors il regardait le petit oiseau, et puis même il a pu le caresser. Alors ses disciples, les disciples de Saint Jean, c'est à Éphèse, disaient, quand même vous, quand même. Vous occupez d'un petit oiseau. C'est quand même. Alors il a répondu, il faut prendre de temps en temps une récréation. De temps en temps, il faut. Oui, parce que vous quand même, c'est la prière continuelle. C'est l'union totale avec Dieu de continuer. C'est le Padre Pio de temps en temps, il prenait. Il brisait du tabac, vous voyez. Et de temps en temps. Oui. Et oui. Et ça ne veut pas dire qu'il faut de temps en temps faire un petit péché. On n'a pas dit ça. Mais une petite récréation, vous voyez. L'union avec Dieu, elle est continuelle, même si on ne la sent pas. Oui. On va chez une amie, on va en montagne, on va faire du ski, je sais pas, l'été on va se plonger dans l'océan, de la mer, tout ça, faire du bateau, oui, d'accord, on peut très bien faire tout ça, mais il y a un phénomène extraordinairement curieux qui vient des cinquièmes demeures et qui fait qu'on a bien regardé, si on s'arrête un peu, je m'arrête un peu, je dois hisser la voile, vous voyez, de faire la cuisine, je m'arrête un peu et je vérifie, est-ce que je suis uni à Dieu en ce moment? Et je m'aperçois que oui. On est continuellement uni à Dieu, même si on n'en a pas conscience. Mais si on s'arrête, on dit, est-ce que je suis uni à Dieu? Sans faire d'efforts pour m'y unir, vous voyez, pour m'y plonger. Oui, je suis uni à Dieu. Après la cinquième demeure, on est continuellement uni à Dieu. Dans la journée. Évidemment, on peut très bien ne plus être uni à Dieu, mais ça on le repère très très bien. Il suffit de commettre une faute. Et dès qu'on commet une faute, on perd l'union avec Dieu. Et on peut la retrouver par l'oraison. Si la faute est ennuyeuse, on peut faire une génuflexion en rentrant dans une église et on a l'absolution. Mais si on a fait des péchés mortels, on peut aller voir un prêtre pour la confession. Mais évidemment, pour la cinquième demeure, on ne fait plus de péché mortel. J'espère que vous avez compris. Voilà. Donc, on arrive à la sixième demeure. La sixième demeure, ce n'est plus la purification de la sensibilité qui domine, ce n'est plus la purification de la mémoire qui domine, c'est la purification de l'esprit qui commence. C'est la nuit, la fameuse nuit de l'esprit. Les trois nuits, vous voyez, la nuit de la sensibilité, la nuit de la mémoire et la nuit de l'esprit constituent ensemble ce qu'on appelle la nuit aquasée de l'âme. Vous avez déjà entendu cette expression, je vois. La nuit aquasée, très intense de mon âme. Quand vous avez les trois nuits ensemble, c'est délicieux. C'est insupportable. Et c'est ce que Saint Jean de la Croix appelle les délices de mon âme. Et lorsqu'on est dans les délices, ces délices-là, n'est-ce pas, de mon âme, où toutes les nuits s'accumulent dans quelque chose de particulièrement languissant. Particulièrement douloureux, cette nuit elle vient du fait que Dieu est vraiment passé, qu'il m'a pris tout entier dans les cinquièmes demeures. Et que si je fais des progrès dans la profonde union avec Dieu malgré tout, si je me dépouille encore plus, si je m'unis encore plus à Jésus crucifié, si je continue à laisser Jésus crucifié rentrer en moi pour que je puisse pénétrer et laisser Jésus crucifié vivre divinement ce qu'il a vécu en étant crucifié, si je continue cette union avec Jésus crucifié, d'une manière surnaturelle, pas avec Jésus glorifié, pas avec Jésus transfiguré, pas avec Jésus... vous pouvez très bien le faire avec Jésus à la nativité, si vous voulez, à Noël, mais n'oubliez pas que Jésus à la nativité à Noël est crucifié. Tota vita Christi crux fuit atque martyrium. Toute la vie du Christ a été la croix et le martyr. Et à Noël, surtout. Mais si je ne vis de Jésus qu'avec du chocolat, du cidre et la galette, vous risquez pas de passer au 16e demeure. Ça risque rien. C'est toujours Jésus crucifié. D'ailleurs, toute l'oraison, c'est toujours Jésus crucifié. Et à un moment donné, si je me livre davantage, si je laisse encore plus de liberté à travers ma détresse, à travers la nuit accroisée de mon âme, de vivre cette nuit totale de Jésus, à Gethsémani. Cette nuit de Gethsémani qui a commencé à sa conception. Et qui ne s'est terminée qu'à l'heure de son soupir sur la croix. Si ça ne devient pas pour moi quelque chose d'extraordinairement familier, par un miracle du Saint-Esprit, qui me fait pénétrer, imbiber ces sentiments du Christ Jésus crucifié. Je vous assure, il est impossible de traverser cette épreuve qu'on appelle la nuit de l'Esprit. On ne peut pas. C'est pourquoi il est strictement impossible à un chrétien qui n'aime pas Jésus crucifié d'aller au ciel. Il aura quelques siècles de purgatoire. Quelqu'un qui n'aime pas la croix ne peut pas aller au ciel. C'est impossible. Ah, j'aime pas avoir des problèmes. Ah bon, alors dans ce cas-là, va chez... je sais pas qui. Ah, moi j'aime pas avoir des difficultés. Ah bon, dans ce cas-là, tu vas... je sais pas où non plus. Je connais pas, voilà. Je connais pas des gens, mais... parce que moi je connais que des chrétiens, donc il y a forcément que la nuit accroisée de l'âme, vous comprenez? Et tant mieux! Tant mieux. Moi, à chaque fois que quelqu'un me dit, mais j'ai des problèmes terribles en ce moment, je dis, c'est merveilleux. À chaque fois, je réponds, mais c'est merveilleux. Alors, si je vois que personne ne pense, il est fou, lui, ou quoi? Si, ah bon, ça flûte alors, elle n'est pas chrétienne, celle-là. Bon, alors, on repart à zéro et on fait de la philosophie. On parle d'Aristote. Vaut mieux. Dans la sixième demeure, il y a quelque chose qui fait qu'on se livre, on continue à être fidèle, on ne peut plus prier parce que... on ne peut plus prier, c'est vrai, on ne peut plus prier, c'est vrai. Mais ça ne fait rien, on prie quand même. On prie quand même. Dans la nuit à croiser de l'âme, il n'y a que des purifications. Et on prie quand même, je vous assure, on prie quand même. Heureusement qu'il y a la prière de l'église, heureusement qu'il y a la messe, heureusement qu'il y a la prière des moines, heureusement que... vous voyez, heureusement qu'il y a... j'appelais quand même sur moi, que je puisse m'accrocher, j'appelais, heureusement, vous voyez, mais encore que, heureusement. Et à un moment donné, le passage de Dieu se fait de manière si violente, enfin pas violente, que vous tombez en extase. Vous voyez, alors là, je ne sais pas si la plupart d'entre vous, vous êtes déjà tombés en extase, je suppose, n'est-ce pas? C'est courant, n'est-ce pas, pour un chrétien, de tomber en extase. L'extase, le ravissement, le vol de l'esprit, c'est courant. Attention, c'est pas comme dans les énergies, hein, c'est pas comme le voyage astral. Hein. Attention, c'est pas ça. Le voyage astral, c'est pas une extase. Et quand vous rentrez dans l'Ivan Mukta à force d'avoir fait Zazen, vous êtes parti, ce n'est pas une extase. Ce n'est pas une extase spirituelle. Ce n'est pas une extase divine. C'est Dieu qui vous prend d'un seul coup, tout entier cette fois-ci. Et je vous dis, par rapport au cinquième demeure, la différence, c'est que cette fois-ci, le corps est parti en Dieu. Tout l'esprit, l'âme, la mémoire, le temps d'avant, le temps d'après, toute la terre, tout ce qui vous en a, tout est parti en Dieu. Tout. Et de sorte que les sons que vous entendez sont des sons qui viennent de Dieu. Les odeurs que vous respirez sont des odeurs qui viennent de Dieu. La vision, ce que vous voyez dans la nuit à côté de là, c'est Dieu. Et voyez, vous avez certainement vu des sculptures qui présentent des âmes en prière entièrement en extase. Le regard est figé là. Dans l'oraison, vous voyez. Leur regard est figé. Ils sont entièrement partis. Dieu les a entièrement pris. Et ça peut être une extase, ça peut être un ravissement, ça peut être le vol de l'esprit. Saint Thérèse d'Avila explique, c'est la demeure où, me semble-t-il, avec la cinquième, elle donne le plus d'explications, le plus de détails. Justement pour qu'on ne confonde pas avec des états d'extase, des états de pâmoison, vous voyez, qui sont dus à la faiblesse féminine, comme elle dit. Parce qu'il paraît qu'une femme tombe assez facilement en extase si elle exagère, en pâmoison, si elle exagère. Il suffit qu'elle se force un peu, avec un petit peu de sacré en plus. Mais c'est elle qui le fait produire, et bien sûr que le démon s'y met. Mais ce n'est pas une extase divine. C'est une extase métapsychique. Mais pour nous les hommes, Dieu soit béni, nous n'avons pas ces faiblesses. Cette texture un peu fragile qui fait que, bon, c'est vrai, mais le ravissement, l'extase est divin. Et le vol de l'esprit divin sont autant pour les hommes que pour les femmes. Pas les pamoisons, c'est vrai. Parce qu'avant de trouver un bonhomme en pamoison, j'en ai vu, moi, des hommes en pamoison. Mais j'en ai vu de mes yeux, j'en ai vu. C'est assez drôle à voir. Ça fait un peu grotesque. Faut bien le dire. C'est grotesque, ça se voit tout de suite. C'est grotesque. Je ne donnerai pas ces exemples parce que c'est pas la peine. Mais je me rappelle d'un père que j'ai bien connu, il est toujours vivant d'ailleurs, dominicain, il disait, quand j'étais au noviciat, il avait confié ça en secret à un de ses amis, et ça qui me l'a rapporté, mais je connais bien tous les deux. Il était au noviciat et à un moment donné, donc il priait, et il faisait oraison, quoi. Et d'un seul coup, le Seigneur est là, la lumière, il commence à être pris entièrement. Mais il y a un ébranlement, c'est très surprenant, hein. Vous vous y attendez pas, hein, parce que vous êtes dans la nuit à causer de l'âme. Je veux dire, c'est vraiment à l'autre extrême. Les gens, ils disent, il est vraiment mal. C'est à ce moment-là que les pères spirituels disent, allez donc voir un exorciste. Les pères spirituels qui n'y connaissent rien à l'oraison, qui ne savent pas ce que c'est que la prière. Ne prenez pas un père spirituel qui ne prie pas. Il ne fait pas oraison à ce moment-là. Parce qu'il va vous dire, oh là là, votre nuit à cause de l'âme, c'est démoniaque, c'est pas normal. Il faut faire des exorcismes, il faut regarder la généalogie, il faut regarder plein de trucs comme ça, vous voyez, couper des liens. Enfin, dans les premières demeures, d'accord, mais dans la sixième demeure. Et alors, timbré pour donner des conseils. Mais donc ce qui vous arrive, c'est ça. Et puis il faudra aussi que vous fassiez soigner par un psychiatre, parce que ça, vous avez vraiment des dérèglements très graves. C'est pathologique, votre histoire, il n'y a pas de doute. Donc hop, hôpital psychiatrique. C'est terrible, ça. C'est terrible. D'ailleurs, ça fait partie des épreuves de la sixième demeure. Savoir que même le confesseur ne comprend plus. Et la plupart du temps, le confesseur n'en est pas à la septième demeure. Il est comme moi, en train de débattre encore dans la première, vous voyez. Alors, on ira. C'est terrible, ça. Ces prêtres qui en sont qu'à la première demeure. C'est affreux. Parce que du coup, ils aident pas. Ils disent, bah, attendez, on va vous soigner. Et on va pas vous soigner. On va vous dire, vous inquiétez pas, voilà, vous allez lire la Sainte Thérèse d'Avila, sixième demeure, puis c'est tout. Vous allez lire tranquillement, et puis vous allez vous unir à Jésus crucifié encore plus. À un moment donné, le Seigneur vous prend. C'est un ravissement. Comme c'est beau. Et quand il vous prend, vous voyez, Sainte Thérèse d'Avila, à un moment donné, elle dit, c'est comme si sa présence, la présence de Dieu, était à ma droite, et j'entends comme un grand sifflement, un grand coup de sifflet. Et c'est comme s'il était un peu, vous voyez, un petit peu comme deux personnes qui s'entrecroisent. Et c'est comme, moi je le perçois plutôt à ma droite, mais vous voyez ici, comme ça, à la moitié de moi-même. Tu es parti dans le ravissement. Et donc ce prêtre, ce dominicain, à un moment il est novice, et puis il part comme ça, il y a une lumière, la présence, pouf, il sort de la nuit à croisée de l'âme, et il sait que c'est Dieu. Ça ne fait pas de doute, hein, parce que non seulement il a la même impression que celle dont il se rappelle très bien qu'il a eue dans les cinquièmes demeures, mais en plus là, il le voit. Et en plus là, il le sent. Et en plus, il y a de la lumière. Alors, il avoue qu'à ce moment-là, ici, il y a une, deux ou trois secondes devant vous. Et là, il a dit, c'était un intellectuel. C'était un intellectuel. Alors, il a dit, en l'espace de trois secondes, ça va très vite le cerveau, hein, comme le Seigneur est là, ça va très très vite. Très 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 vite. Ça va 100 000 fois plus vite que même quand vous êtes très éveillé intellectuellement. Ça va très vite. Alors il a réfléchi, avec ce... et puis très très vite, il a dit, ah, c'est mieux une nuit toute pure pour l'union avec Dieu qu'une nuit avec un ravissement. Donc il a dit, non, je ne veux que toi, Seigneur. Et aussitôt le Seigneur est parti. Mais il a dit 30 ans plus tard, si c'était une erreur de jeunesse. Parce que quand c'est Dieu qui vous prend, vous n'avez pas à dire non. Mais ça fait peur. Et il faut beaucoup de courage pour se laisser prendre par Dieu dans un ravissement. Beaucoup, beaucoup de courage. Parce qu'il est tout autre que nous. Et une fois qu'il nous a ainsi fortifiés, brûlés, que la brûlure de son cœur brûle désormais le mien, je suis comme suspendu encore pendant un jour, deux jours, trois jours, quatre jours. Cet état extatique extraordinaire qui fait que c'est Dieu qui vit en moi, mais dans toutes les parties de moi-même, et quelque chose d'extraordinaire jusqu'à ce que je sois replongé dans une nuit encore plus profonde de l'esprit. Et en fait, c'est pour me fortifier, pour déraciner, j'allais dire, toutes les substances de la création dans lesquelles, au milieu desquelles je suis, et pour qu'elles soient enracinées en Dieu à travers moi. Et donc, la nuit à croiser de l'âme qui va être la mienne va être encore plus profonde, de plus en plus. Et il va y avoir de plus en plus donc cette prise de Dieu qui va prendre possession de son univers à travers moi, voyez, dans un ravissement merveilleux. La différence entre l'extase, le ravissement et le vol de l'esprit, comme vous en avez tous fait l'expérience, j'ai pas besoin de le préciser. Puisque ça fait partie de votre quotidien. J'espère. Bon. Donc vous m'expliquerez comment c'est arrivé là, n'est-ce pas ? Pour m'éclairer. Mais si vous voulez des... Bon, grosso modo, L'extase, vous voyez, comme mon petit père dominicain tout à l'heure, vous pouvez encore résister. Pas beaucoup, hein? Pas longtemps, hein? Mais vous pouvez résister. Vous voyez? Et si les gens qui sont autour de vous disent qu'est-ce qui lui arrive? Allons-y, gens qui sont autour de vous, qu'est-ce qui vous arrive? Vous ne les percevez plus, mais que comme des ombres, vaguement. Vous ne percevez que vous voyez Jésus, vous voyez. C'est en même temps de l'intérieur et en même temps une vision de l'âme, c'est en même temps une vision extérieure et intérieure. Je sais pas, vous savez. Et quelque part, vous pourriez, vous méritez une gloire surnaturelle, éternelle, en vous laissant faire. Parce que vous vous laissez envahir par l'amour divin de Dieu dans sa lumière en voyant Jésus. Et c'est Dieu que vous voyez. Vous voyez une de ses beautés, une de ses splendeurs, un de ses attributs, un de ses trésors. Vous auriez passé dans les cinquièmes de l'heure des siècles sans vous arrêter à faire en raison pour imaginer même surnaturellement tous les trésors et délices de Dieu. Vous n'aurez pas perçu ça. Le mérite que vous avez surnaturellement de sainteté est plus grand que des millions d'années de vie chrétienne pour les gens qui sont dans les cinq premières demeures. C'est pourquoi il faut souhaiter ardemment d'arriver au cinquième, sixième et septième demeure pour que Dieu soit glorifié et qu'on ne reste pas dans la médiocrité des premières demeures des progressants et de la voie unitive. C'est déjà beau, mais ce n'est qu'une préparation aux fiançailles. On est là pour vivre juste Christ. Le Christ, c'est l'union hypostatique. J'ai un petit papier, cette fois-ci, c'est Sainte-Thérèse d'Avila. Bon, vous pouvez vous-même aller voir hein, sur Internet, mais je vous montre quelques petits passages où elle explique. Donc le ravissement par rapport à l'extase, c'est tout simple, c'est que le ravissement, vous ne pouvez pas résister. C'est strictement impossible. Dieu vous prend, point barre. C'est entièrement brûlé. Et vous êtes tellement pris, c'est très fort. Ah, le vol de l'esprit, c'est que vous êtes emporté. Non pas seulement avec vos sens externes et votre vie végétative, mais c'est comme si vous étiez emporté vous-même, un petit peu comme une catapulte, vous voyez, vous coupez le fil de la catapulte, vous allez enflammer cette paille de camphre pour aller le mettre, et puis vous coupez, vous êtes parti d'un seul coup. Le Seigneur a coupé, vous êtes parti en Dieu. Vous êtes parti avec votre corps, ça c'est le vol de l'esprit. C'est votre esprit. Vous ne savez pas, Saint Paul en parle à un moment donné. Était-ce avec mon corps, était-ce sans mon corps? Je ne sais pas. J'ai été emporté jusqu'au 7e ciel. Était-ce avec mon corps, sans mon corps? Je ne sais pas. Oui, vous êtes transporté dans votre corps spirituel, en fait, hein, en réalité, dans le livre de la vie. Et là, vous êtes dans le cœur même de Dieu. C'est extraordinaire ça. Mais alors évidemment, du coup, votre corps psychique qui reste là, les gens regardent et ils sont complètement effrayés parce que il faut comprendre que dans ces ravissements, dans ces extases, le corps n'a plus le capital de vie qui lui était réservé. Vous voyez, puisque tout est. Alors du coup, le corps s'amenuise, il se refroidit. Vous voyez, il se refroidit, non seulement il s'apaise, mais il se. Il devient un petit peu comme mort. C'est pas tout à fait un coma, mais il devient froid, comme quelqu'un qui est mort. Pas tout à fait glacé, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Mais, et puis, si c'est non pas l'extase, mais le ravissement, alors à ce moment-là, il y a une tension qui se fait dans le corps. Et quand c'est le vol de l'esprit, alors c'est les membres qui se disloquent. Mais vous n'en sentez strictement rien. Parce que vous, Vous êtes parti avec votre corps. C'est uniquement le corps psychique, c'est pas le corps spirituel. C'est pas votre corps pris par Dieu. Donc, les gens qui souffrent, c'est ceux qui vous voient. Alors, ne faites pas venir un médecin, sinon il serait capable de vous floquer un cocktail pour vous dégager. C'est pas vrai. Il souffre trop, donc vite, euthanasie. Hop. Non, non, docteur, c'est un ravissement. Je vous en supplie. Allez, revenez vite de votre vol de l'esprit, en disant, docteur, ravissement, revenez trop, c'est pas tout à fait le même truc. Hein. C'est extraordinaire, ça. Oui. Puis après, quand vous revenez, vous pouvez avoir mal encore, hein, encore mal pendant 2-3 jours, hein, tellement vous avez été physiquement souffré, c'est quand vous revenez. Et tout ça, ce sont des purifications que Dieu fait pour vous permettre de passer justement à la fameuse union transformante. Si vous ne vous laissez pas faire par Dieu, si vous ne vous laissez pas faire par Dieu, jamais vous connaîtrez le mariage spirituel. Jamais. Or, si vous faites oraison, c'est uniquement, si vous êtes baptisé, c'est uniquement pour vivre du mariage spirituel, de la septième demeure. Alors, il faut désirer de manière brûlante d'arriver au septième demeure. C'est très très important pour Dieu. C'est très important pour l'Église. C'est très important pour la création. Bon. C'est vrai que pour passer de la cinquième à la sixième demeure, bon, Saint Jean de la Croix, il en parle à un moment donné dans une strophe du Cantique spirituel. Vous pouvez le lire en poème. C'est beau, Saint Jean de la Croix en espagnol. Oh, c'est beau. En français, c'est moins bien, mais parce que c'est un peu gaulois, vous savez, français. Mais à un moment donné, il est pris par la présence de Dieu, il est dans la nuit à cause de l'âme, il cherche Dieu partout, Dieu l'a pris, on ne peut pas tout dire que ce soit lui, il n'y a que lui qui compte, il le cherche partout dans l'horizon, il veut absolument retrouver cette présence de Dieu, il y aspire, il retrouve Jésus crucifié, il veut être crucifié intérieurement dans le sentiment de Jésus crucifié, encore plus surnaturellement qu'avant, et tout ça, et puis à un moment donné, ah! Une apparition, enfin, c'est une apparition surnaturelle, vous voyez, c'est une apparition pas visible, c'est une apparition spirituelle, c'est une apparition spirituelle, vous comprenez, c'est une apparition spirituelle de Jésus, c'est une apparition spirituelle du Père aussi, quelquefois, ou du Saint-Esprit, mais c'est une apparition, et une apparition, ah, une extase. Un jour, Maximilien Kolb était contre, Père Maximilien Kolb était contre son armoire. Il avait 8 ans. Il est rentré à l'âge de 8 ans dans la sixième demeure. Vous voyez ? Et il le raconte lui-même. Il était là, et hop, il y a eu cette extase. Il a vu une apparition du Père, et le Père lui a montré deux roses. Une blanche et une rouge. Ce n'était pas une vision imaginaire, vous comprenez ? C'est pas celle qu'on... C'est pas ce genre de truc qu'on a dans les deuxièmes demeures dont nous avons parlé. Hein, mais... Non. C'était pas des visions. Vous savez, une fois que vous avez eu une vision de Jésus ou de Marie comme ça en faisant prière dans un groupe charismatique, vous pouvez le reproduire autant que vous voulez, 2 millions de fois si vous voulez, et même plus beau. Enfin, je sais pas, j'en ai eu des millions de visions comme ça, charismatico-dingo. Pas dingo, mais charismatico. Vous voyez ? Mais ça, c'est pas du tout une rose comme ça. C'est une rose, c'est l'amour. Rendu sensible surnaturellement dans l'incréé, quelque chose qu'il est apparu, il a tout de suite compris dans l'extase ce que c'était cette rose. C'était le martyr de Jésus. Et puis une rose blanche, c'était la virginité immaculée du Verbe de Dieu. Il a dit, je prends les deux. Et vous voyez, il a eu les 2 ou 3 secondes dont je vous ai parlé, vous voyez. Et puis, il a tellement aspiré, il s'est emporté par la présence de Dieu, son cœur, il s'est laissé emporter dans l'acquiescement, et il a dit oui. Moi, je me rappelle de ça parce que un jour, j'avais pas 7 ans, et je peux vous le dire en confidence, c'est qu'un jour, comme ça, je tombe en extase. Je devais avoir, j'ai plus 28 ans, ouais, donc j'étais déjà vieux. C'est un mauvais chrétien, quoi. Et, à la frontière des décisives de mort. Avec du temps, c'est mieux. Bon, bref. Donc, à un moment donné, je tombe en extase. Je tombe pas en extase, c'est le Seigneur qui me montre un truc. Et c'était quelque chose de très, très, très semblable à ce que j'ai lu dans Maximien. Et je vois une rose rouge et une rose blanche. Mais je la vois pas. Bon, vous m'avez compris, quoi. Parce que c'est pas vraiment. Et là, j'ai dit dans ma tête, parce que moi j'étais aussi un intellectuel comme mon ami tout à l'heure. Et pendant les 2 ou 3 secondes, j'ai dit, oh, ça veut dire le martyr, oh, ça veut dire la virginité perpétuelle. J'ai dit, ça va être dur quand même. Pendant les 2 ou 3 secondes, trop tard, 1 seconde d'hésitation, terminé. Rideau, crédit. Et là, je me suis retrouvé tout bête. Alors après, pour en avoir 1 seconde, c'est-à-dire il vient 1 fois, il ne vient pas 2. Hein. Alors je suis retombé dans la première demeure. Et depuis, c'est comme pas. Alors, donc, parce qu'on peut descendre, vous voyez, un refus. Il ne faut rien refuser à Dieu, mais d'un autre côté, l'acquiescement vient de Dieu aussi. Si l'acquiescement, s'il n'est pas divin, c'est pas toi qui peux produire un acquiescement pareil. Ça, je peux vous le dire. Je peux vous le dire de moi-même, c'est impossible, malgré tout l'amour que j'avais pour le Christ. Pourtant, je pensais que je pensais vraiment hein, que j'étais prêt à mourir 1000 fois pour lui, être crucifié, être machin, lapidé, tout ça. Tu parles, quand c'est lui qui est là, c'était non. Alors quand même, bon. Alors Seigneur, je dis, après j'ai demandé pardon, je dis Seigneur, comment ça se fait, c'est oui, c'est parce que je... Bon alors, bah, du coup, bah, voilà. Bon, alors, Sainte Thérèse d'Avila. Alors, du coup, Saint Jean de la Croix explique ça dans le Cantique spirituel, il dit, voilà, si... Ah. Alors, 5e demeure, je cherche cette espèce d'océan, de cristallin, de présence, du passage, je cherche vraiment cristallisé en Dieu. Ah, c'est dans le miroir de tes eaux argentées, tu me laissais voir enfin, Seigneur, les yeux que sans fin je cherche et que je garde à l'ébauche dans mon cœur. Oh, fontaine cristalline. Oh, fontaine cristalline. Oui, parce que dans la 5e demeure, j'ai tout fait. J'étais plus loin que dans la fontaine de l'apaisement et de l'océan de Dieu. J'ai été jusqu'à la source de cet apaisement, aux fontaines cristallines. Il y a quelque chose qui est en train de sourdre. Cette présence cristalline. Aux fontaines. Et ça, je l'ai vu. Je l'ai vu avec la substance de mon âme dans la 5e demeure. Alors, aux fontaines cristallines. C'est dans le miroir de tes eaux argentées. C'est dans ce miroir de cette source que j'ai vu le passage de Dieu. Tu me laissais voir enfin les yeux que je sens. Sans fin, je cherche. Sans fin. Allez, on garde une œil et que je garde à l'ébauche dans mon âme. Et là, d'un seul coup, il y a une césure dans le poème de Saint Jean de la Croix. Et il explique d'ailleurs. Il y a ce désir de voir Dieu, de continuer à le voir, de le revoir, etc. Et plus profondément encore, si tu me sais pas, de pénétrer en lui, de tout à lui, etc. Et d'un seul coup, première extase de ta vie, divine, le Seigneur parle. Et ça montre, puisque tu l'as demandé. Mais comme l'âme n'est pas encore dépouillée, totalement, jusque dans son essence, jusque, vous voyez, dans la signification sponsale de toute sa personne, comme elle n'est pas encore purifiée. Alors du coup, elle fait non. L'extase, c'est Dieu, ça fait peur. Il faut avoir beaucoup, beaucoup de courage pour dire oui dans une extase, au début. Et du coup, il y a un effroi, vous voyez, il y a un effroi. C'est pas une peur, mais ça se bouscule là-dedans. Mais tu croyais que tu étais complètement apaisé? Pas du tout. Il y a une bousculade. Tu croyais être apaisé jusqu'à la substance? Pas du tout. Et du coup, alors, Saint-Jean de la Croix continue sur le podium en disant, hey, Loan, Niolet, assis dans le miroir, déjà dans des fontaines cristallines, tu me laissais voir, enfin des yeux, le regard de Dieu, que sans fin je cherche, et que Dieu montre son regard, sa lumière. Et alors, tout de suite, tu dis, éloigne-les, mon bien-aimé, éloigne tes yeux. Et là, il y a une nouvelle césure, un certain stop, un blocage dans le poème. Et puis après, il continue, il y a une suspension, tout ça s'est terminé, comme je vous l'ai expliqué. Et puis, il y a quand même une petite consolation du Seigneur, il dit, tu vois, il vaut mieux que tu restes dans la nuit à causer de larmes. Mais continue à me chercher. Ça viendra à la sixième demeure. Peut-être tu diras oui si tu te laisses purifier encore par Jésus crucifié par moi. Et il le dit de la manière suave, de suivante, tiens. Viens, ma colombe. Viens. Car voici qu'au sommet des monts apparaît le cerf blessé, savourant la brise fraîche de ton vol. À partir du moment où il y a une première extase, même s'il y a un premier mouvement de frayeur, c'est pas grave. Il y a l'appel à rentrer dans la sixième demeure. Et donc l'appel à vivre, à regarder au sommet de la montagne, au sommet du mystère du Verbe de Dieu, le cerf blessé, Jésus crucifié, immolé et glorifié. Et de rentrer tranquillement, humblement, comme une paille soulevée par un vent tempétueux à l'intérieur de ce gémissement du Verbe de Dieu, transpercé. Et qui va savourer cette union comme le vol d'une colombe discrète. Il va savourer la brise fraîche de son vol. Vous savez, un cerf, quand il est blessé, qu'il perd son sang, il meurt de soif. Un cerf, vous savez, ça court, ils savent bien ça. Il meurt de soif. Alors il perd son sang. Du coup, il court, comme il n'a jamais couru de toute sa vie de cerf, pour trouver de l'eau. C'est comme si la langue de sa gorge le brûlait. Voilà ce qui se passe pour un cerf. Jésus crucifié a soif de nous voir rentrer dans la sixième demeure. Elle doit vivre encore plus, et plus que jamais, Jésus crucifié dans l'horizon. Bon, revenons à Sainte Thérèse d'Avila pour dire ce que c'est que la sixième demeure. Et puis après, on s'arrête là. D'un seul coup, l'époux ordonne la fermeture des portes des cinq autres demeures, de toutes les demeures, et même celles du château et de l'enceinte. Car lorsque Dieu veut enlever, rapte, cette âme et la ravir, elle perd la respiration. C'est vrai, je ne vous l'ai pas dit. Vous devenez un peu plus froid, un petit peu plus frais. C'est la différence avec les ravissements des faiblesses féminines. Hein, vous êtes ceux qui sont à ce moment-là bien très chaudes. Alors, la ravir, elle perd la respiration. Et même si elle garde un peu plus longtemps l'usage de ce qu'elle ressent, il lui est totalement impossible de parler. Totalement impossible de parler. C'est impossible. Mais parfois aussi, tout s'interrompt soudain, les mains et le corps se refroidissent à tel point qu'elle croit être privée de son âme et de sa source de vivification. Un peu comme quelqu'un qui va mourir, qui sent que son âme va partir. Et qu'il arrive même qu'on ne perçoive plus son souffle, les gens qui sont à côté. Ah, ça vous est arrivé, donc c'est pas la peine. Alors, c'est bref, et je le précise, cet état-là est bref, car dès que ce grand ravissement se relâche, le corps semble se ressaisir un peu, il reprend haleine pour mourir à nouveau et donner à l'âme un supplément de vie. Et pourtant, cette grande extase ne dure pas longtemps. Lorsqu'elle a cessé, l'extase, hein, il arrive néanmoins que la volonté, le cœur profond, hein, reste si absorbé et l'intelligence qui vient d'être saisie dans quelque chose qui lui est incompréhensible, mais tout en même temps si lumineux pendant des jours et encore des jours, que cette âme semble incapable de rien comprendre de ce qui n'éveille pas la volonté et l'incite à l'aimer, et à aimer Dieu. Elle est toutefois très éveillée à l'amour, mais endormie s'il s'agit d'affronter les créatures et de s'y arracher. Pas commode de vivre avec des saints. Parce que tu n'existes plus. C'est beau, hein, ça. Un Dieu à charité vis-à-vis du prochain, là. Oui, mais tu sors de l'extase. Un jour, par exemple, je vais visiter ma sœur, une de mes sœurs, parce que comme ça, vous ne saurez pas, elle est encore vivante, je ne saurais pas laquelle c'est. Et on parle comme ça, et puis on parle de ce que Mélanie voyait quand elle a été entièrement absorbée dans la lumière de l'Immaculée Conception à la Salette. Bon, peu importe. On lit ça. Et puis je suis parti, je l'ai laissé là. Elle m'a dit, après que tu sois parti, je suis tombé en extase. Mais j'ai su ça un an après. Après que tu sois parti, je suis tombé en extase. C'est pas ce qui m'est arrivé, mais en tout cas, Dieu m'a pris. Et puis je voyais tout, je voyais l'intérieur de Dieu, je comprenais des millions de fois mieux que ce que j'avais jamais compris avant, comment l'intimité de la seconde personne vient de l'intimité de la première, comment tout ça s'aspire l'Esprit Saint, enfin je peux dire, pourtant elle n'avait jamais fait de théologie, hein, bon, elle ne savait pas qu'il y avait deux spirales, deux processions, quatre processions, deux processions et quatre relations subsistantes, tout ça elle ne savait pas. Mais là elle l'a vu, elle l'a vécu, tout ça, puis quand elle est redescendue, elle s'est retrouvée, elle dit, je vais rester en extase pendant environ 4-5 jours, nuit et jour. Vous voyez ce qu'elle dit ici. Et alors elle dit, mais ton mari, et la vaisselle. C'est là que j'ai découvert ce que c'était que le mariage. Oui, parce que c'est dans cet état de ravissement qu'elle était entièrement ravie à l'intérieur de sa matière, c'est pour ça, et qu'elle comprenait l'intérieur, le divin qui était en lui. C'est pas beau. Tout ce qui était dans sa moitié responsable et qui le portait à l'amour de Dieu était éveillé. Et la vaisselle, mais je faisais la vaisselle, oui. Mais c'était Dieu qui faisait la vaisselle. Et etc. Et puis ça a duré. Puis après, ça s'éteint. Et puis vous rentrez dans une nuit à Coisé d'âme. Vous en parlez, bien sûr, à votre confesseur qui fait partie de la loge du coin. Et qui va vous dire, bon, on va vous faire soigner. Oui. Bon, et voilà. Donc, un mois, ça lui a duré. Un mois. C'est beau, ça, hein? C'est sympa, hein? Bon. Et quand c'est pas une extase, après c'est un ravissement. Et après c'est un ravissement, c'est le vol de l'esprit. Oh, que c'est beau, le vol de l'esprit. Et les gens qui... Surtout n'ayez pas d'amis médecins. Pas d'amis médecins. Surtout pas. Parce que là, ils vont vous faire je sais pas quoi. Et quand ils vont voir tous vos membres disloqués, tout ça. Bon, alors, je tremble d'effroi rien que les idées qui pourraient germer dans leur tête. Alors, voyez donc, il est une sorte de ravissement au vol de l'esprit dit à ma façon. Ça, c'est Sainte Thérèse d'Avila. Ah oui, quand l'âme, pardon, donc j'en étais pas là, elle est toutefois fort éveillée à l'amour, mais endormie s'il s'agit d'affronter des créatures et de s'y attacher. Vous voyez, on ne s'attache pas du tout à son mari, on s'attache dans son mari, à Dieu dans son mari, pour vivre l'unité sponsale, dans un amour de Dieu, pour aimer Dieu davantage. C'est beau ça, hein? Mais mon mari, je l'aime plus. Alors ma femme, elle m'a dit, c'est incroyable, mon mari ne m'aime plus. Mais Becca, ça, pas du tout. Alors, quand l'âme revient tout à fait à elle, oh, quelle confusion qui est la sienne, quel immense désir elle a de s'employer au service de Dieu, de quelque façon que Dieu puisse l'utiliser pour cela, pour un amour plus grand. Il y a une autre sorte de ravissement, qu'on appelle le ravissement, vol de l'esprit. Je vais le dire à ma façon, car bien qu'en substance ce soit exactement la même chose, le sentiment intérieur est très différent. Parfois, on sent soudain un mouvement de l'âme tellement accéléré que l'esprit semble emporté à une vitesse fulgurante qui fait très peur. Particulièrement les premières fois. Ça se comprend. C'est pourquoi je vous disais que ceux à qui Dieu accorde ses grâces doivent avoir beaucoup de courage. Beaucoup. Et beaucoup de foi. Beaucoup de confiance. Beaucoup de confiance. Vous voyez, parce que si vous êtes là, attention, est-ce que ça vient du démon? Est-ce que ça vient du démon? Est-ce que ça vient du mal? Est-ce que ce serait pas mieux si je renonçais à ça pour un... Tu t'unis à Dieu. Puisque tu n'as pas à avoir peur, tu n'as pas à avoir peur, puisque Dieu est là, quand même. Non? Tu n'as pas à avoir peur du démon, puisque tu le sais, quand même. Que par une grâce de Dieu, tu es entièrement détaché même du péché véniel. Que tu ne veux que l'amour de Dieu. Et si tu arrives de faire quelquefois des fautes qui ressemblent à des péchés véniels ou même à des péchés mortels, tu n'y es pour rien. Pour rien. Alors, hein. Donc tu le sais. Donc le démon ne s'approche pas. Le démon ne s'approche pas d'une âme qui est en état de grâce et disposée au mariage spirituel. Il ne s'approche pas, il la redoute. Mais dès que le Seigneur a enlevé son ravissement et l'épreuve de son amour qui continue à déferler sur sa vie pendant un jour ou un mois, ou 6 mois, ça peut être 6 mois aussi, hein, à ce moment-là, une fois qu'il la laisse, le démon se précipite sur toi, n'aie aucune espèce de crainte. Mais quand tu es là, non, t'approche pas. Autant dire que tu vas te délecter dans l'huile bouillante, comme ça, à jubiler dedans, comme ça. C'est pareil pour le démon. Donc t'as pas à avoir peur. Et il faut beaucoup de courage, beaucoup de foi, beaucoup de confiance. Et être pleinement résigné à laisser notre Seigneur faire de mon âme tout ce qu'il veut. Ah bon, moi je veux bien être plongé dans l'amour, je veux bien être plongé dans la lumière, je veux bien être en extase. Mais si le Seigneur m'emporte pour me faire voir quelque chose d'extraordinaire d'ailleurs. Les sentiments qu'il a à Gethsémani, par exemple. C'est un peu dur, quand même. Tout ce qu'il veut. Et c'est, en plus, c'est très beau. Hein. Parce que c'est très beau. J'ai déjà perçu ces choses-là par ma vie théologale, par ma vie contemplative. Mais là, c'est Dieu lui-même qui m'y emporte. C'est pas génial, non? Mais le chrétien qui ne vit pas de la sixième demeure, c'est un malheureux. Beaucoup de confiance, être pleinement résigné à laisser notre Seigneur faire de l'âme ce que bon lui semble. Croyez bien que la personne qui est en pleine possession de ses moyens, de ses sens, qui sent son âme emportée soudain, pourrait n'être qu'à peine troublé. Mais bien sûr, si tu es en pleine possession, tu maîtrises parfaitement ton compte, tu contrôles parfaitement ta situation, et que d'un seul coup, Seigneur, non, ben tu es troublé. Hein. Ça, si tu n'es pas troublé, et d'autant plus que tu aimes tellement contrôler la situation. Et c'est pour ça que ces choses-là n'arrivent que des gens qui ont vaincu quand même pas mal l'orgueil. C'est pour ça qu'il y a pas mal de nuits à croiser de l'âme, et la cinquième demeure avant, pour être complètement décontenancé. Et même les gens, ils ne peuvent pas te faire confiance. Et même tu ne peux pas te faire confiance à toi-même. Alors, oui. Alors, n'y a-t-il aucun moyen d'y résister? Dans le ravissement, il n'y a aucun moyen d'y résister. Et d'ailleurs, si on y résistait, ce serait pire. C'est Thérèse d'Avila qui dit ça. Certaines personnes m'ont dit que Dieu semble vouloir faire comprendre à l'âme qui s'est remise entre ses mains et qui s'est donnée à lui si souvent et si sincèrement tout entière avec une volonté totale qu'elle ne s'appartient plus. Et il la ravit dans un élan encore plus impétueux. Donc vous voyez, vous êtes habitué à l'extase, mais cette fois-ci c'est un ravissement. C'est plus impétueux et donc vous êtes encore plus troublé. Cette personne avait décidé d'être comme la paille que une tempête soulève facilement, comme vous l'aurez remarqué, et il lui appartenait de s'abandonner dans les mains de celui qui devait faire son bon vouloir en elle pour la façonner à sa ressemblance éternelle. Cela évoque ce bassin dont nous avons parlé dans la quatrième demeure, qui, avec une telle douceur et sans aucun gémissement, sans aucun trouble, sans aucune terreur, se remplissait tranquillement, comme une invasion tranquille et apaisante de Dieu dans les puissances. Mais ici, ce Dieu de grandeur ineffable qui revient, qui retient les sources des eaux et qui ne permet pas à la mer de sortir de ses limites, déchaîne toutes les sources de sa création et de son intimité qui alimentent ce bassin. D'un seul coup, dans un élan impétu, une vague énorme se soulève d'un seul coup. Et vous êtes le petit poussin, le petit bout de papier là au-dessus de cette vague gigantesque, d'un seul coup. Ah, vous croyez que vous ne serez pas troublé? Regardez l'évangile où les apôtres se trouvent dans la barque, ils étaient soulevés s'ils n'étaient pas troublés. Bien sûr qu'ils étaient troublés par ces vagues en furie. Et de même qu'une nacelle ne peut pas lutter, pas plus lutter que son pilote et tous ceux qui la gouvernent, qui sont tous impuissants à la maintenir, où il le voudrait au milieu des vagues en furie, l'âme, dans cet ravissement, peut encore moins arrêter où elle le veut, son mouvement intérieur, ni obtenir que ses sens et ses puissances fassent autre chose que ce qui lui est commandé par l'action divine, par l'amour de Dieu. Quant à l'extérieur, ce qui se passe évidemment à l'extérieur, s'il y a de l'écume sur les vagues, ou s'il y a un poisson qui sort de l'eau, évidemment, tout ce qui se passe à l'extérieur, tu ne perçois plus rien. C'est évident. Tels sont les premiers joyaux que l'époux donne ici à son épouse pour l'appeler au mariage spirituel dans les fiançailles. Ils sont d'une telle valeur que la personne, le chrétien, qui aura fort raison et qui aura acquiescé à ce mouvement de Dieu pour la prendre tout entière, ne s'exposera plus jamais à quelconque risque de perdre ses trésors et ses joyaux. Ce qu'elle a vu reste si gravé dans son corps, son âme et son esprit qu'il est impossible de l'oublier en attendant d'en jouir pour toujours au ciel dans la vision béatifique, sous peine de subir un dommage terrible pour son salut. C'est pas que la personne puisse plus pécher après les sixièmes demeures, mais si elle commet un péché, sa chute est terrible. Et elle le sait. Et donc, elle devient très délicate. Pour le courage, pensez-vous que le courage qui est nécessaire pour rentrer dans la vie chrétienne, puisque les fiançailles du Seigneur avec le Christ font l'essentiel de cette sixième demeure et l'essentiel du passage de la sixième demeure, puisque l'âme semble vraiment se séparer du corps, qu'elle voit sa sensibilité lui échapper, qu'elle ne comprend pas pourquoi il faut que celui qui lui donne tout le reste lui donne aussi du courage, eh bien vous direz qu'elle est bien payée de ses peurs. Elle est très bien payée de ses peurs, je suis de cet avis. Parce que du coup, si elle n'a pas peur, le Seigneur lui donne beaucoup. Le Seigneur lui donne des trésors tout à fait extraordinaires. C'est le trésor que Marie a reçu, voyez.